La séance des tirs au sort va bientôt débuter ici, au kiosque à pizza. Il dépose la boîte devant lui. Il recule de 3 pas. Il sort son téléphone. Il se rapproche du QR code. Il s'élance. Et c'est scanné. C'est scanné. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il gagne une voiture électrique!
Jusqu'au 14 juillet, rendez-vous dans votre kiosque à pizza pour tenter de gagner des pizzas, des consoles de jeux et même une voiture électrique! Voir conditions et règlements du jeu sur lekiosqueapizza.com. Pour votre santé, bougez plus.
Vous écoutez
RMC. RMC, 9h30, midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h05, de retour dans les grandes gueules du sport. Nous sommes ensemble jusqu'à midi avec ce matin Christophe Cessieux, Jérôme Pinault, Fred Weiss et Sarah Pitkowski qui vient de nous rejoindre dans le studio RMC. Rebonjour Sarah.
Rebonjour à tous.
Tout va bien?
Écoute, remarquablement bien.
Tu as réalisé il y a quelques instants une interview à Roland Garros de Varvara Gracheva. On va en parler dans quelques instants.
La dernière française
la
en lice.
La dernière française qualifiée pour les 8e de finale. Ce sera demain une interview à retrouver dans Bartoli Time avec toi. Ce soir, une interview exceptionnelle. Comment ça s'est passé avec la française?
Très bien, toujours ce très joli sourire qui est sur son visage à longueur de temps. Elle parle bien français, on sent qu'elle voudrait nous dire plein d'émotions et qu'elle cherche encore les bons mots, puisque notre langue est quand même un peu particulière. Mais on sent qu'elle est vraiment touchée par ce qu'elle est en train de vivre là.
Ouais, elle a chanté
touchée.
La Marseillaise avec le public lors de son 3e tour. Enfin, beaucoup d'émotions qu'elle te raconte et on va découvrir ça et on va aussi mieux la connaître dès ce soir à partir de 19h dans Bartoli Time avec toi Sarah. Merci beaucoup pour cette interview. Justement, nos Français qualifiés pour les 8e de finale, pour la 2e semaine, c'est assez rare pour le souligner. Est-ce un Roland-Garros réussi pour nos Français? C'est notre débat dans quelques instants. 11h30, le débat caché. Les GG ne savent rien et pourtant ils vont devoir débattre. Je vous ai préparé GG, un débat caché aujourd'hui. Je suis sûr que ça va vous plaire. Je vous attends vraiment sur le sujet. 11h45, c'était mieux avant, le bonbon nostalgique de Christophe Cessieux. Spécial Jeux Olympiques. Christophe, 1980?
On va remonter en 1980, les Jeux de Moscou, les Jeux qui avaient été boycottés par certains, notamment les Américains. Les Anglais étaient là, et notamment deux d'entre eux, Sébastien Coe et Steve Ovett, qui se sont livrés un duel incroyable sur le 800 et le 1500 mètres. Sébastien Coe, vous savez, c'est celui qui nous a tapé ensuite lorsque Paris a voulu avoir les Jeux en 2012. Il était le patron du comité de candidature de Londres 2012. C'est un mec qui a tout gagné dans sa vie. Un personnage assez fascinant.
Ouais, on en parlera.
Très grande année 1980. Très grande année.
11h45. Je dois en déduire que c'est ton année de naissance.
Pareil.
Très bien. Un très beau cadeau à vous faire gagner. Tiens, justement, si tu veux gagner un beau cadeau pour ton anniversaire 1980, tout ça, à l'occasion de Roland Garros, notre partenaire confiseur fini. C'est bizarre comme
confiseur
nom.
Confiseur fini.
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 C'est
fini.
T'en manges une fois, c'est fini.
Confiseur, c'est pour Christophe.
C'est une bonne promo, ils vont être contents. Fini vous offre des bonbons.
Oui. Donc, c'est pas finalement.
Fini, exactement. Des balles de tennis ainsi que de nombreuses autres sucreries. Pour gagner tout un sac rempli de bonbons, c'est simple. Eh bien, ce sera premier au 32-16. Vous appelez 32-16, vous avez un sac de bonbons. Voilà. Et après, c'est
fini.
C'est fini. Antoine de Saint-Exupéry.
Surtout si le sac passe entre les mains, Christophe Cessieux.
Là, c'est sûr que tu ne le revois pas. Pour lui, c'est comme s'il y avait un sac rempli de billets. Antoine de Saint-Exupéry a dit un jour, ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir.
RMC, les grandes gueules du sport passent la seconde.
Antoine Moutet qui finit non pas sur un ace à la cuillère mais sur un full ace frappé à toute vitesse. Corentin Moutet est en 8e de Roland-Garros pour la première fois de sa carrière après un match formidable.
J'avais dit quoi ?
40-30, elle est au service, allez par voir. Faut tenir les nerfs parce que c'est pas évident, le cœur doit battre très fort. Première balle out. Allez, faut pas mollir Varvara. Barbara Gatsuva qui est en train de construire son point, elle est à la rue, Bégou là.
Ah, c'est
non
bien.
Allez, faut conclure là. Mais c'est pas possible, slash après rebond, le deuxième. C'est fait. Bravo Varvara. Varvara Gatsuva en 8e de finale de Roland Garros.
Ah, cela fait 4 ans que l'on n'avait plus vu ça, 4 ans qu'un Français ou une Française ne s'était plus hissé en deuxième semaine de Roland-Garros en 2024. Nous en aurons deux, Corentin Moutet chez les hommes, Varvara Gracheva chez les femmes, deux surprises qui cachent tout de même beaucoup de déceptions car les autres Français ont brillé par leurs absences cette semaine. Les têtes de gondole et Humbert Garcia se sont écroulés, les jeunes prometteurs, les fils Van Hache n'ont pas confirmé les vieilles gloires, les Gasquet, Cornet, mon fils n'ont malheureusement plus la caisse. Pour un dernier frisson, la musique qui fout les jetons et cette question. Deux Français en deuxième semaine. Est-ce un Roland Garros réussi? Oui ou non? Christophe Cessieux.
C'est un peu tôt pour le dire. Pour l'instant, non.
Fred Weiss.
Oui, mais.
Jérôme Pinault.
Non.
Sarah Pitkowski.
Oui, parce qu'il n'est pas raté.
Avant de débattre, la voix du tennis est avec nous de nouveau, comme à 9h30 pour parler de Novak Djokovic. C'est Eric Salio qui a passé une petite nuit. Vous le comprendrez bien. Salut Eric.
Salut à tous.
Alors, quel bilan déjà on peut tirer de cette première semaine des Français?
Écoutez, prenons l'image d'un 400 mètres olympique. 27 Français sur la ligne de départ. Au bout de 200 mètres, 25 ont tiré la langue et sont sortis de la piste. Et il n'en reste que deux. Au chapitre des déceptions, il y a évidemment la chute de nos deux numéro 1. Perturbé par des problèmes personnels, Hugo Humbert a été éliminé par Sonego. Quant à Caroline Garcia, sa défaite au deuxième tour face à Sofia Kenin a amené une question d'un jeune journaliste sur son identité de jeu. La Lyonnaise l'a gentiment recadré.
Est-ce que vous êtes nouveau? Mon jeu, il a toujours été comme ça. Ça fait 15 ans que je joue comme ça.
Nos vieux grognards, Richard Gasquet et Gaël Monfils, ont fait ce qu'ils ont pu, mais ils n'ont plus les jambes pour rivaliser. Mais on devrait les revoir en 2025 pour la derdéder. Arthur Rinderknecht, lui, a dû abandonner pour un motif qui a enchanté la fédé de la loose.
J'ai juste déconné, j'ai shooté dans le mur, un peu d'agacement à 2-0 quand je me fais briquer au quatrième, et après j'arrivais plus à poser le pied par terre, donc voilà.
Les deux rayons de soleil sont inattendus, comme Hugo Gaston il y a 4 ans, un gaucher régal, Corentin Moutet a enflammé Roland avec son toucher de balle et ses services à la cuillère, 22 depuis le début du tournoi. Comme le Toulousain, il possède une sacrée main, mais on va lui demander de dégommer ce soir Yannick Sinner. Mais qui sait, l'Italien, à force d'aller chercher les amortis du Parisien, il va peut-être réveiller sa douleur à la hanche. On termine avec Varvara Gracheva, naturalisée française il y a plus d'un an. La Moscovite a été adoptée par le public lorsqu'elle a repris les paroles d'une Marseillaise entonnée après son succès au troisième tour hier. Un souvenir magique pour une jeune femme arrivée il y a 8 ans à Cannes.
C'est un moment où je veux mémoriser jusqu'à la fin de ma vie. C'est bon. Après que les commentateurs m'ont dit oui, c'est ton premier Roland Garros avec le public, comme une Française, j'ai dit oui. J'ai même pas réalisé, mais juste je venais avec le public, avec cette ambiance, cette atmosphère, c'était immense.
On la retrouvera lundi face à la pépitrus Mira Andreeva, elle aussi formée dans l'académie azurienne de Jean-René Wissner, surnommée JR.
JR, le fameux JR, enfin l'autre JR, le moins connu. Merci beaucoup Eric Salio, tu seras à Roland-Garros toute la journée pour commenter évidemment le début de ces huitièmes de finale, quoi qu'il doit rester quand même quelques troisièmes tours à placer en ce dimanche. Mais tu restes avec nous déjà pour ce débat. Est-ce un Roland-Garros réussi pour nos Français avec deux tricolores, vous l'avez bien compris, en deuxième semaine, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Christophe.
Ouais, pour l'instant, c'est trop tôt pour se prononcer. Attendons de voir ce que vont faire Moutet cet après-midi ou ce soir plutôt face à Sinner, Gracheva demain. Si t'en as deux en quart de finale, ou même rêvons encore, soyons fous, qui atteignent le dernier carré, qui remporte Roland Garros, t'auras l'air malin de dire que le Roland Garros est raté dans une semaine. Donc c'est impossible de se prononcer pour l'instant. Si en revanche ça s'arrête là pour les deux, on pourra dire moyennement réussi. Ça dépend où tu places le curseur.
Pour eux, c'est réussi,
le curseur de l'état du tennis français.
Mais c'est ça le problème.
Avoir deux Français en huitième de finale, c'est moyennasse, quoi. On est habitué depuis des années, c'est comme ça. Je crois que la dernière fois qu'on en a eu trois en huitième de finale, c'était deux garçons et une fille, c'était en 2018. Il y avait Benoît Paire, Gaël Monfils et Caroline Garcia. La dernière fois qu'on a eu un quart de finaliste, c'était Gasquet en 2016. Le dernier demi-finaliste, c'était 2015 avec Tsonga. Le dernier finaliste, Henri Lecomte, 1989. Et le dernier vainqueur, je vais pas vous rappeler. Donc, voilà. Et puis chez les filles, c'est pas mieux, hein. La dernière quart de finaliste, c'était Caroline Garcia et Mladenovic en 2017. Donc voilà, le problème, c'est que si on se contente de ça, on peut pas se contenter de ça. On a quand même l'une des fédés les plus riches de France, sinon la plus riche,
que t'es bien géré,
avec
attention.
Un tournoi du Grand Chelem, un Master 1000, plus de 8000 clubs, 1 million de licenciés, 4 millions de pratiquants, et t'arrives à ça, t'arrives à deux Français en huitième de finale.
Mais c'est pour ça que moi j'ai répondu oui,
attends, laisse-moi finir. Oui, j'ai compris ce que t'allais dire. Oui, mais
vas-y.
Voilà, bah, j'ai fini.
D'accord. Vas-y, Fred.
Il m'a coupé dans mon moment. Il m'a coupé dans mon
moment. J'ai coupé au moment.
C'est une émission de débat, les copains. Vas-y.
Donc, en fait, c'est pour ça que j'ai répondu oui, mais parce que quand tu constates ce qui s'est passé, quand on voit ce que Christophe a raconté, bah justement, bah c'est pas si mal que ça finalement faire un huitième, parce que c'est pas arrivé depuis 2020, donc ça fait 4 ans que c'est pas arrivé, parce que c'est pas si courant que ça pour nous, et parce que finalement Krejčíková, moi je pense qu'elle a une chance quand même en huitième, en tous les cas.
Elle a plus de chance que Corentin Moutet contre Sinner. Sinner,
Krejčíková a beaucoup de chance.
Krejčíková, pardon, autant pour moi. Donc oui, effectivement, mais effectivement, si on dresse le constat réel, se dire que cette fédération française, elle devrait être plus haut, oui, bien évidemment, c'est pour ça que je dis oui, mais oui, parce que concrètement, vu ce qu'on a eu jusque-là, bah, c'est pas si mal que ça, mais évidemment qu'on attend autre chose, et on attend surtout que nos têtes d'affiche répondent présentes dans les moments importants.
C'est peut-être là où on peut avoir la discussion, c'est sur les garçons et les filles que l'on attendait. C'est-à-dire que oui, il y a ce qu'on aime voir, je le disais, les Gasquet, les Cornel et mon fils, mais bon, on se doute bien que bon, ils sont vieillissants pour
faire oui, les relèves. La relève est là.
Mais c'est les jeunes qui avaient prouvé l'année dernière. On s'attendait à ce qu'il y ait justement.
Qui avaient prouvé quand ils étaient en junior, l'année où effectivement les quatre Français sont demi-finalistes et finalistes.
Et même Van Aert l'année dernière, il est bon. Mon fils, il est bon.
Il perd au premier tour. Arthur Fils l'année dernière se présente en ayant gagné le tournoi de Lyon. La même chose que Giovanni Mpeci Pericard qui gagne le tournoi de Lyon et qui se présente à Roland Garros, mais ils ont fait premier tour tous les deux. Si on regarde, en fait, on avait trois têtes de série chez les hommes, une tête de série chez les femmes. C'est comme ça que tu regardes un tableau au tennis.
C'est déjà très faible pour une nation comme la nôtre.
C'est faible. Mais dans ces trois garçons, t'en as deux. Si tu pouvais éviter de jouer Roland Garros sur terre battue, ça les arrangerait beaucoup. Tu vois, Hugo Humbert et Adrien Manarino, qui a priori ne va pas jouer les Jeux Olympiques.
Parce que c'est sur la terre.
Parce que c'est sur la terre et qui veut pas prendre la place de quelqu'un qui joue mieux sur terre. Mm-hmm. C'est dire à quel point. Et Caro Garcia, c'est la même chose. La terre battue est très très loin d'être sa meilleure surface. Donc la déception, elle vient que on a peut-être deux séries. Donc peut-être deux séries et en plus qui joue pas sur terre. Donc ce qui doit être les piliers ne sont pas au rendez-vous. Mais j'ai envie de dire, on mérite le résultat qu'on a.
Et est-ce qu'on a mis en place pour que ça performe accompagner les jeunes, c'est aussi accompagner tournoi comme le nôtre, c'est aussi aux plus hautes instances de se préoccuper des prestations des Français année après année. On en parlait en début d'année, parce qu'on parle de la terre, mais rappelez-vous pour la Coupe Davis, le débat qu'on avait fait. Aujourd'hui, après, il y a eu un tournoi sur le dur. On n'était pas très bon non plus, et on se désolait de plus voir de Français sur le.
Oui,
sur
mais là où on est le plus nul, c'est encore la terre battue.
Et le stade abritant les sièges de la Fédé. On est d'accord.
Oui, absolument.
Donc, posons-nous la question.
Moi, c'est ma question pour Sarah, justement.
Sarah,
comment tu peux essayer de gagner un tournoi hyper important comme ça en France et que les surfaces de prédilection de nos Français, ou en tout cas des meilleurs, bah, c'est pas la terre battue, justement.
Pas parce qu'on commence pas sur terre battue. Je vais vous donner un chiffre que j'ai demander. Donc, sur 100% des cours de tennis en France, il n'y en a que 13% qui sont sur terre battue. On a plus de chances de commencer à jouer au tennis sur dur que sur terre battue.
Quartier, Sarah, c'est pas un terrain de tennis.
Non.
Le jour où t'as envie de jouer au tennis, mais t'es pas licencié, t'es pas dans un club, t'es pas dans le cercle, tu vas pas jouer sur terre battue.
C'est normal. La terre battue est une surface qui demande de l'entretien. Quand tu vois qu'il y a que 13% de cours en terre battue et que donc on fait commencer notre jeunesse sur dur, même si c'est pas rédhibitoire pour la fin, force est de constater qu'au fur et à mesure des années, le problème, c'est que
il y a de la terre partout.
Donc c'est quoi la solution, ça,
c'est bah, ça mettre de la terre partout.
J'ai une solution et je vais poser la question à Sarah. J'ai une solution. Est-ce qu'on peut, non mais raisonnablement, ouvrons le débat ce matin. Il est 11h18. Allons-y. Est-ce qu'on doit changer la surface de Roland-Garros ? Sarah, est-ce que c'est possible ?
En tout cas, c'est pas impossible. Il y a personne qui nous empêche. En tout cas, il y a personne qui empêche la Fédération française de tennis de dire je vais changer la surface. Les autres grands chelems ont changé de surface. L'Open d'Australie est passé du gazon au dur. L'US Open, enfin Flushing Meadow, est passé du gazon au dur.
Avant, il y avait trois tournois.
Les Français qui gagnent pas au tennis, c'est pas un problème de surface.
Arrêtons. Faux.
Non mais ça.
Avec tout l'amour que j'ai pour
ça, on s'en fiche que les Français marchent pas. On a l'un des plus gros des plus beaux tournois du monde, avec cette terre battue, ces images, cette couleur. Et vous allez changer, vous allez faire pousser de l'herbe ou mettre un court en dur pour espérer gagner. Non, mais arrêtez. Roland Garros, c'est une institution en France. Les Français sont mauvais au tennis depuis toujours, ou quasiment depuis que les mousquetaires ont rendu les armes.
Non, Christophe, dis non. On a eu des finales de Grand Chelem. On a eu une génération juste incroyable.
La dernière finale, la dernière victoire de la France en Grand Chelem.
Tu oublies chez les femmes, il y a eu Marie Pierce, il y a Amélie Mauresmo, il y a eu Marion Bartoli. Ne parlons pas que du tennis masculin.
On a un problème psychologique avec l'événement qui se passe chez nous. On a aussi ce problème psychologique, et beaucoup chez les tennismen et tenniswomen, mais c'est peut-être aussi du fait que ce soit un sport assez individuel, c'est que on a un vrai problème quand ça se passe chez nous, l'athlète français se liquéfie quand il joue à Roland-Garros. Vrai ou pas? On a souvent des joueurs qui sortent d'une série très positive, qui vont gagner des tournois au préalable, que ce soit sur terre ou ailleurs, et qui arrivent à Roland et qui se chient dessus.
Il y en a qui
ne demandaient pas le public, c'est ça, je comprends pas.
Il faudrait juste
aller voir Eric sur cette idée.
C'était Amélie Mauresmo, oui, bien sûr, tu as raison.
Cette idée qui peut paraître farfelue, mais changer de surface pour avantager nos Français, d'autres l'ont fait, Eric. Est-ce que c'est envisageable à Roland?
Mais arrêtez, là, vous êtes sérieux là?
Je m'en doutais.
Parce qu'on n'a pas de Français qui gagnent le Tour de France, il faudrait arrêter l'école aussi dans le Tour.
Faudrait
mettre tout plat, quoi. Arrêtez, vous êtes vos idées farfelues, là.
Non, mais en revanche, moi, je voudrais mettre un focus sur le tennis italien. Moi, quand j'allais à Rome, je me baladais souvent le long du Tevere, le Tibre, et il y a plein de tiercoli, de clubs, de tennis, mais il y a que des terres battues. Ils apprennent à jouer sur terre, les Italiens. Et nous, on nous apprend à jouer en indoor. Ah, bah bravo, étonnez-vous. Et quand on construit un CNE ultra moderne, il n'y a pas un mec qui pense qu'il faut mettre une terre battue indoor. Voilà par qui on est dirigé. Merci.
Eric, à Rome, les cours en terre battue, ils sont souvent en extérieur et il pleut pas 350 jours par an comme dans le nord de la France.
Pourquoi on
n'en
a pas un centre d'entraînement dans le sud? Ça fait 25 ans qu'on en parle.
Ça, je suis d'accord. Ouais. Ça, c'est vrai.
Rien n'est fait.
Faut pas s'étonner si on est nul. Rien n'est fait.
Alors nul, n'exagérons pas, mais disons qu'on n'a pas les résultats qui sont à la hauteur de la qualité des joueurs.
On a l'impression d'entendre la directrice de la communication de la Fédération française de tennis.
Non, mais même au-delà de ça, on parlera. On était avec Eric il y a 20 minutes avec Varvara Gracheva qui nous expliquait. Oui. Eric. Elle nous expliquait quand je suis arrivée ici, l'école russe, on m'apprenait à taper comme une sourde dans la balle à longueur de temps. Et quand je suis arrivée ici, on m'a appris à construire, à jouer, à mettre la balle dans le court. Donc on sait jouer au tennis ici. Sincèrement, on sait jouer. On a une belle technique. On apprend le jeu. Sauf qu'après, ça se passe dans le mental, ça se passe dans les choix des joueurs parce qu'à 18 ans, c'est un sport individuel. C'est le joueur qui choisit sa structure, c'est le joueur qui fixe ses objectifs, c'est le joueur qui arrive à se dépouiller pour aller sur le court. Donc en fait, il y a un moment.
Roland Garros, c'est un moment, c'est pas un objectif pour un Français.
Je comprends ce que tu veux dire. C'est un objectif, mais c'est lui qui décide de ce qu'il veut mettre dans sa carrière et jusqu'où il veut faire des sacrifices. Et la fédération, elle y est plus pour rien. Quand t'es junior, tu as ton entraîneur, t'as un cadre. Mais après, c'est un sport individuel. Toi qui choisis, qui paye ta structure et qui fixe tes objectifs. C'est à se demander si effectivement les joueurs, dans une forme de confort, est-ce que c'est plus facile d'être français que d'être serbe. Voilà.
Moi, je pense qu'il y a cette chose-là. Je te rejoins là-dessus, Sarah, mais il y a aussi une chose, c'est la culture du comportement et de la motivation à bien faire, quel que soit le résultat. C'est-à-dire que quand t'es gamin, tu dois être programmé, si t'as du talent, pour briller sur ton sol. Mais briller sur ton sol, ça veut pas forcément dire gagner, ça veut dire déjà créer de l'émotion, donner de l'émotion. Moi, ça fait très longtemps que j'ai pas vu un joueur ou une joueuse française qui me donne envie. Parce qu'elle me crée de l'émotion, qu'elle perd, je m'en tape.
Il y en a, c'est parce que tu vois pas tous les matchs, mais oui, il y en a.
Tu vois, l'autre jour,
on a vécu de belles vibrations avec un Gaël Monfils qui a une carrière.
Il y a quelque chose, Gaston par le passé, Richard aussi, enfin, ils nous ont souvent donné des émotions.
C'est donc pas aux joueurs et aux joueuses que j'en veux, c'est prépare-t-on nos athlètes à cet événement Roland-Garros qui peut. Tu sais, tu peux être complètement diminué lorsque tu arrives avec quelque chose qui est trop fort sur tes épaules. Un tournoi peut te peut-être.
Mais qu'est-ce qui peut y avoir sous tes épaules qui te diminue autant? Tu sais que les Français performent pas. Bah oui, donc au pire, tu vas faire.
T'es tennisman. Aujourd'hui, t'écoutes l'émission. Ils sont nuls. Ils sont pas bons. Faut qu'on change le truc pour les faire gagner. Ça te donne pas de la confiance.
Oui, mais c'est un constat de ce qui se passe en termes de résultats pour les Français depuis des années. Donc on est en train juste de constater que ça se passe pas bien.
Pourquoi ça peut être pire, c'est
ma vraie question.
Ça peut pas être pire.
Donc, elle est où la pression?
Pour le coup, ça peut être pire. On s'attendait aussi à ce qu'il y ait
0 en deuxième semaine.
Là,
mais moi, je voulais finir par Moutet me crée de l'émotion. Je vais regarder le match. Je sais qu'il va pas gagner, mais je vais regarder. Ça crée quelque chose.
Ok, Julien est avec nous, 32-16. Il veut participer à notre débat. Bonjour, Julien.
Bonjour, les GG.
Bon, c'est assez animé. Est-ce que c'est un tournoi réussi pour toi, pour les Français?
Bon, j'ai envie de dire oui. Alors, c'est pas une réussite exceptionnelle pour l'instant, mais oui, plutôt, parce que je vais reprendre un peu les propos de Sarah. Elle a fait un petit état des lieux des forces françaises en présence. On ne pouvait pas attendre grand-chose, tout simplement. Hugo Humbert, ce n'est pas sa surface préférée. Caro Garcia, Roland Garros, ça se met souvent la pression. Arthur Fils, sur lequel on attendait beaucoup. Bah oui, mais il prend Arnaldi au premier tour et il est mené 3-0 avant de démarrer le match en confrontation directe. Donc non, j'en attendais pas grand-chose. Et j'ai envie de dire, au vu des performances de Moutet, la façon avec laquelle il gagne ses matchs, façon ambianceur et façon magicien, j'ai envie de dire, bah oui, ça fait oublier un petit peu tout le reste. Et très mécaniquement, et vous l'avez déjà dit, donc je ne saurais que répéter, mais on ne peut pas être déçu d'un tournoi où on n'attendait pas grand-chose. Je suis désolé, on est déçu quand on attend, quand on s'attend à des résultats et qu'on ne les a pas. Là, en l'occurrence, si on compare avec l'année dernière, on a eu quoi l'an passé? On a eu un match d'anthologie de Gaël Monfils au premier tour, en 5-7 face à Baez, et de mémoire, on n'a rien eu d'autre. Ah oui, je préfère cette édition et je réserve ma soirée à partir de 20h30 pour me régaler devant Sinner Moutet et voir comment notre petit génie français va essayer de faire déjouer le numéro 2 mondial.
Eh ben, donc, tu as bien raison. Restons optimistes et Corentin Moutet ce soir face à Yannick Sinner. On en parle dans les paris RMC évidemment, mais on en parlera tout au long de la journée. Merci Julien d'avoir été avec nous. 11h26, le débat caché. Ça va vous plaire, hein, évidemment, ce débat caché. On embrasse Eric Salio, que l'on retrouvera également toute la journée, car nous allons vivre au rythme de Roland-Garros. Allez, à tout de suite sur RMC pour notre petit guet-apens préparé ce matin avec Gourmandise pour nos GG. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h30, nous sommes de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Christophe Cessieux, Sarah Pitkowski, Jérôme Pinault et Fred Weiss. N'hésitez pas, hein, une émission extrêmement riche à aller nous réécouter en podcast. On a évoqué ce match d'anthologie cette nuit entre Novak Djokovic et Musetti. D'ailleurs, Christophe, c'est bon, tu sais qui a gagné ou pas?
Ouais, ça y est, j'ai vu la fin du match. Bravo Djoko, hein, franchement.
Ça t'a plu ou pas?
Ouais, c'est bien. Mais c'est bien en décalage.
Tu vois, t'as fini
comme
pas
ça.
Si tard que ça.
Non, regarde, à midi, à 11h15, j'ai fini. Voilà, bien.
T'es prêt à en discuter maintenant?
Ah, ben on peut en discuter quand vous voulez, jusqu'au bout de la nuit. Hein.
On a évoqué aussi le Real Madrid, évidemment, ce 15e succès en Ligue des Champions, c'était absolument phénoménal. Fred Hermel était avec nous. Dans 10 minutes, vous le savez, tous les dimanches, le C'était mieux avant spécial Jeux Olympiques, signé Christophe Cessieux. On reviendra en 1980 pour les Jeux Olympiques de Moscou avec un Sébastien Coe de feu, mais il a été un petit peu embêté par un autre ami britannique. Mais tout de suite, c'est l'heure du débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Réagir sur l'émotion, mais GG, tel est votre objectif. C'est ce que j'attends de vous, car vous ne savez pas le débat que nous allons faire dans quelques instants. Le guet-apens du jour. C'est ça.
Oh, cette fois, ce sera sur le thé. Mais ça fait le point quand même. Ah, il fait rarement son service à la cuillère sur le thé. C'est souvent vers l'extérieur.
Ah, et si le service à la cuillère s'était débarrassé de sa mauvaise réputation? 35 ans après Michael Chang, ce geste si décrié a été remis au goût du jour durant ce Roland-Garros 2024, notamment par Corentin Moutet, mais également d'autres joueurs comme Alexander Bublik ou Davidovich Fokina. Depuis le début du tournoi, le Français, qui sera en deuxième semaine, a réalisé 22 services à la cuillère, 12 lors de son troisième tour. Notre consultant, Florent Serra, déteste ça.
Moi, ça m'énerve. Si on me le fait, ça m'énerve. C'est un manque de respect. Mais le problème, c'est qu'il faut plus le prendre comme ça, je pense. À une certaine époque, en effet, c'était considéré à l'époque déjà comme un manque de respect. Mais maintenant, c'est plus le cas. Donc, il faut jouer avec ça.
Il faut jouer avec ça. Le service à la cuillère, mais GG. Est-ce que c'est un gadget ou une arme? Un gadget ou une arme? J'ai déjà dit, dis donc. Un gadget ou une arme, Christophe Cessieux?
Une arme.
C'est une arme pour
toi. Ouais, quand c'est bien utilisé.
Sarah Pitkowski.
Ah, c'est une arme.
C'est une arme. Jérôme Pinault.
Mais une arme.
Une arme aussi. Fred Weiss.
C'est un gadget armé.
Histoire de ne pas répondre. Eric Salio est toujours avec nous. Eric Salio, c'est un gadget ou c'est une arme?
Le gadget, mais qui a eu l'idée de ce terme? Bien sûr, c'est une arme fantastique.
Une arme fantastique.
Et j'en veux plus encore.
Ok, tu en veux plus.
Ça devrait être appris à l'école de tennis.
Oui.
Carrément, Sarah Pitkowski.
Ah oui, c'est une arme parce que c'est loin d'être évident à faire. C'est pas juste l'histoire du service à la cuillère. C'est-à-dire que mettre une balle dans le carré de service en passant par en dessous, j'ai envie de dire, on le pratique tous quand on débute le tennis. Mais de le faire avec de l'effet et pour éviter de prendre un retour gagnant, il y a une vraie maîtrise. Et en l'occurrence, Corentin Moutet, tu le vois pas préparé. Il est gaucher. Donc, en fait, il est un demi-tourné. Et donc, en fait, il masque complètement sa préparation et ça donne un effet rétro. Et franchement, tu peux devenir complètement chèvre hein, quand tu retournes ce genre de service.
C'est ma faute. Ça marche pas, ce débat caché.
Pourquoi ?
Alors j'ai une nouvelle question. Est-ce que vous êtes tous d'accord ?
Ouais.
Le service à la cuillère, est-ce que c'est encore un manque de respect ? Oui ou non ? Est-ce encore un manque de respect, le service à la cuillère ? Fred Weiss ?
Non.
Jérôme Pinault ?
Bah non.
Non, Sarah Pitkowski.
Si je suis en face, je te jure que oui.
Ok, Christophe Cessieux.
Non, moi j'utilisais toujours ça parce que j'avais
pas. Non, mais toi tu sais pas faire autre. Ouais, c'est normal.
J'adore les faits de
ça. Et toi tu les mettais dehors en plus.
En plus.
Ok, pourquoi non,
trop long.
Jérôme Pinault.
Mais non, c'est une arme, c'est un jeu, s'il n'est pas interdit. Il faut l'utiliser.
La Panenka non plus.
Bah, c'est quoi,
Oui, la Panenka non plus. La Panenka, tu le prends comment?
Pour moi, la Panenka, c'est pas un manque de respect. Mais si elle va au fond. Ça fait but.
Non, mais ça, on est d'accord. On est
c'est
d'accord.
Quoi le but du service? C'est de mettre la balle dans le carré.
Est-ce que c'est fair play? Parce que c'est pas le coup traditionnel que tu dois jouer à ce moment-là, comme la Panenka. Est-ce que c'est fair play de sortir un coup comme ça?
Non, mais Sarah, c'est pas possible. Tu peux pas poser cette question en ayant dit juste avant que c'est une arme.
Bah, si oui, c'est mais une c'est une arme.
Donc, si c'est une arme, c'est en plus, tu as expliqué que c'était techniquement dur à faire, etc.
Très dur à faire.
Donc, tu es en train de me dire que utiliser quelque chose qui peut te mettre en difficulté est un manque de respect. Bah non, c'est se servir d'une arme pour te battre à ton propre jeu.
Mais c'est comme c'est autorisé de hurler quand tu frappes la balle, quand tu joues Monica Seles. C'est pas fair play. Et
oui,
pourtant, c'est autorisé.
Alors, concrètement, il y a beaucoup moins de choses techniques au fait de crier que de faire ce que.
Tu le mets dans la même case de est-ce qu'en fait, tu es là pour décontenancer ton adversaire. Mais c'est le jeu du tennis, t'as raison. Je suis en face, je deviens chèvre.
Oui, tu deviens chèvre et donc j'ai gagné.
Absolument.
Et donc, c'est une arme.
Tu peux jouer en n'étant pas fair play. Tu catégorises des joueurs
mais
qui sont
Sarah, tu
qui font
dire,
leur petit jeu et qui sont
fair-play. C'est une arme, Sarah, tu peux pas
mais
me dire que c'est une arme et en même temps que c'est pas fair-play. C'est une arme.
Mais pour moi, c'est pas contradictoire.
Donc, c'est pas contradictoire. Rappelez-vous, Chang. Alors tout le monde avait trouvé ça
exceptionnel. Mais c'était à l'époque.
Non, mais moi, j'avais trouvé ça génial.
Parce que personne ne le faisait. C'était très très rare. C'était exceptionnel.
C'était face à Lendl.
Face à Lendl en finale.
Il a encore
en train de la gloire. Ça avait été une véritable arme parce que ça avait déstabilisé son adversaire.
Exactement.
Et qu'il avait battu Lendl, donc c'est une arme du tennis. Il faut savoir utiliser toutes les armes. Oui, c'est comme essayer de déstabiliser son adversaire en
faisant son lacet.
Regarde ce qu'avait fait l'adversaire de Zidane. Materazzi,
la balle,
Materazzi tu peux considérer ça comme un truc affreux, horrible d'avoir.
C'est affreux.
Mais il a déstabilisé son adversaire. Au bout du compte, Zizou est sorti et l'Italie a gagné la Coupe du Monde. Donc voilà. Presque tous les moyens sont bons pour obtenir la victoire. Et en l'occurrence, celui-là, il est...
Pas tous.
Mais c'est pas qu'il
pas, pas tricher. Pas tricher.
Faut s'arrêter
pas tricher. Mais
Dans les cadres du sport, je vois pas pourquoi cette arme-là... Quel intérêt il aurait, le joueur qui utilise ça parfaitement comme une arme, quel intérêt il aurait à te servir deux fois comme un bourrin si c'est pour la mettre la deuxième fois plus faible et se prendre un retour pour le public, pour les gens qui regardent le tennis, pour dire il est dans les cadres, il est dans les cadres,
c'est ça, on s'en fout en fait.
Sauf que je refais mon, et je vais aller voir Eric Salio, je refais mon allusion au foot, la Panenka, c'est pas bien pris par les gardiens, donc on peut se demander
s'il y a but.
Si c'est un manque de respect.
Oui, mais t'es pas Eric gardien. Salio.
Mais Zizou, quand il a mis le penalty, moi je préfère qu'il ait eu un manque de respect sur le penalty plutôt plutôt que de mettre le coup de boule. Hein.
Après, je vous raconte.
Bien sûr.
Après, je te confirme.
Vous savez quoi, je vous raconte une histoire sur la Panenka. Vous lui faites penser.
Ça peut être drôle.
Oui, je pense que c'est pas mal. tu t'en souviens? T'étais là ou pas ce jour-là? Non, t'étais pas là. Eric Salio, est-ce que aujourd'hui c'est admis de faire un service à la cuillère quand on voit qu'il en a fait 22, Corentin Moutet, toi qui suis le tennis depuis des années, est-ce que tu sens une évolution sur ce geste ou c'est encore mal pris?
Moi, j'ai des souvenirs de Nick Kyrgios qui fait service à cuillère sur Rafa Nadal à Wimbledon. Nadal, il encaisse le coup, mais là, il a l'œil noir, quoi. Il sait que c'est autorisé, mais je pense qu'au fond de lui, il se dit, ce mec-là, attention, il joue un peu avec moi. Mais Moutet, c'est un cas d'école parce que lui, il le maîtrise à la perfection. C'est le meilleur serveur au monde à la cuillère parce qu'il met beaucoup d'effets. Mais moi, j'aurais adoré voir un Moutet Medvedev parce que souvenez-vous, Medvedev, quand il retourne dans les bâches. Mais Moutet se serait régalé contre Medvedev. C'est une arme tactique, bien sûr. C'est une manière de mettre dans l'inconfort ton adversaire. C'est une manière de lui prouver que t'en as dans le pantalon. Parce que, autre anecdote, Moutet Jarry à Santiago au début d'année. Premier point du match. Service à la cuillère gagnant, ace. Évidemment, il a pris des sifflets. Mais voilà, il était déjà rentré dans le cerveau de son adversaire. Donc c'est... Non.
Donc on peut dire que c'est une arme, mais parfois c'est aussi considéré comme l'adversaire, comme un manque de respect.
Oui, on peut le tourner comme ça.
C'est une petite marque déposée. Hein. Ça devient pour Moutet, ça devient une marque de fabrique. C'est le joueur qui sert à la cuillère.
Elle a fait mal.
Elle a fait mal.
Ouais,
on l'a
prise
en pleine figure.
Bon, bah, c'est le moment.
Quoi,
de...
là.
C'est quoi?
Qu'est-ce qui se passe? On vient de le réveiller. On est en plein débat et boum, il y a un mec qui arrive, qui siffle, qui lance de la trompette et tout. Non, mais on rêve, quoi. C'est Laurent Chay qui arrive pour le flash.
Non. 11h40, je fais pas le flash. Non, Laurent, c'était 11h, pas 11h08. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est le moment de vous inscrire. Vous avez 5 minutes à partir de maintenant pour envoyer coffre au 732-16 et remporter la totale pour l'Euro 2024. On va bien vous équiper avec de nombreux cadeaux. C'est à partir de maintenant. Vous avez 5 minutes. Allez, on va se retrouver dans quelques instants. Merci beaucoup Eric Salio d'avoir été avec nous. On te retrouve tout au long de la journée. On se retrouve dans quelques instants pour C'était mieux avant. Le bonbon nostalgique de Christophe Cessieux, spécial Jeux Olympiques. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h42 toujours avec Christophe Cessieux, Sarah Pitkowski, Fred Weiss, Jérôme Pinault à partir de midi. Les paris RMC, on parlera évidemment de Roland Garros, mais également du barrage Ligue 1, Ligue 2. C'est le match retour ce soir entre Metz et Saint-Etienne. Le coup d'envoi à 17h, on vous donnera toutes les meilleures cotes. Tout de suite, le moment nostalgique de Christophe Cessieux.
Les GG.
Tatopek démarre à son tour et passe les trois hommes. Mimoun reste dans sa foulée. C'est une empoignade extraordinaire.
Jesse Owens. Il arrive au premier flash avec un temps de 10 secondes et 3 dixièmes.
Marito Zeperek qui revient à la hauteur de Plisguida. Elle est championne de l'Afrique.
C'était mieux avant.
1980, les Jeux Olympiques de Moscou.
Ce 6 juillet 2005, on est un peu plus tard, à Singapour, Bertrand Delanoë, le maire de Paris et les légendes du sport français qui l'accompagnent, se préparent à vivre un moment exceptionnel. Ils en sont persuadés. Dans quelques instants, Paris va obtenir l'organisation des Jeux de 2012. Mais lorsque Jacques Rogge prend la parole, c'est un nouveau Waterloo qui cueille les Français.
I awarded to the city of London.
Par 54 voix contre 50, Londres coiffe Paris au poteau. Une immense et amère surprise pour tous les Français, dont Jean-Claude Killy, triple champion olympique et membre du CIO.
Les Anglais, comme sur un terrain de rugby, on est dans le sport quand même, ne s'arrête jamais. Jamais, jamais. Ils ont fait un lobbying de forcené. Nous faisions le même, avec plus de discrétion peut-être. Néanmoins, on se fait battre dans la dernière ligne droite.
Une victoire que les Britanniques doivent à leur Premier ministre Tony Blair, mais également et peut-être surtout au président du comité de candidature Sébastien Coe, son charisme et ses méthodes musclées.
Je crois vraiment que le charisme de Sébastien Coe, qui est capable de transmettre sa passion du sport, y compris aux plus jeunes, a été encore plus efficace que le film et la présentation de notre candidature.
Une victoire, une de plus pour le sémillant et séduisant président du comité de candidature londonien. À 48 ans, il décroche là un nouveau triomphe olympique, 25 ans après ses premiers exploits sur les pistes d'athlétisme. Mais l'idée que Sébastien Coe se fait des Jeux est loin de l'idéal utopique du baron de Coubertin. Pour lui, l'essentiel n'a jamais été de participer, mais bien de gagner. Idéal inculqué par Peter Coe, son père, et aussi coach intraitable.
fashion,
le premier, c'est le premier, le deuxième, il est nulle part. Alors tout le monde me dit que ma théorie est l'antithèse du sport, mais moi je pense que les gens confondent participation et compétition. Gagner, c'est le principe même du sport d'élite. Et le petit Sébastien est plutôt du genre doué, ce qui parfois peut être gênant pour Angela, la mère du champion. Lorsque j'allais à la journée sportive de l'école, je croisais les parents qui me disaient « Je ne sais pas pourquoi nous nous donnons la peine de venir, nous savons que Sebko va tout gagner. » Et je pensais à Seb, « Mais perds quelque chose, s'il te plaît, perds quelque chose. » Mais il ne l'a jamais fait, il gagnait tout le temps. Peu importe ce qu'il faisait, il était toujours premier, et pour moi c'était vraiment gênant. En 1977, à 21 ans, il décroche son premier titre de champion d'Europe en salle, avant un an plus tard de battre le record britannique du 800 mètres. Mais quelques semaines plus tard, au championnat d'Europe, il va tomber sur un os nommé Steve Ovett, anglais comme lui, coureur de demi-fond comme lui, et aussi doué que lui, sinon même un peu plus à l'époque. Lors du 800 mètres disputé à Prague, les deux hommes font connaissance sur la piste, un duel qui tourne à l'avantage d'Ovett, qui récupère le record britannique sur la distance. Dès lors, le duel entre les deux sujets de sa gracieuse majesté est lancé et va passionner les foules britanniques. Deux garçons aux talents identiques, mais au physique et caractère foncièrement différents. D'un côté, Ovett, grand échalas d'1m85, aux dents proéminentes et au caractère sauvage et ombrageux. De l'autre, Co, le séduisant, sourire ultra bright, jamais avare d'un bon mot et surtout toujours disponible pour répondre aux questions de la presse qu'il adore. Les journalistes anglais ont en revanche plus de mal avec Ovett qui a décidé de ne pas leur parler et qu'ils vont prendre en grippe. Les médias d'outre-Manche vont se délecter, même monter en épingle ce duel fratricide qui va diviser toute l'Angleterre et agacer Steve Ovett. Les médias ont tendance à simplifier en noir et blanc, en bon et méchant, mais c'est pas aussi simple que ça. Pourquoi pensez-vous être dépeint comme le méchant? Parce que je ne parle pas à la presse et il est plus facile d'avoir un méchant qui ne parle pas et un gentil qui parle. Il y a de l'animosité entre vous? Je ne pense pas. Le seul problème, c'est qu'en raison de cette soi-disant rivalité, à chaque fois qu'on se rencontre, il y a des journalistes qui veulent recréer l'image de la rivalité. Donc même si on discute gentiment tous les deux, il y aura toujours un photographe qui dira « Allez, mets-lui ton poids sur la gueule !» Durant les deux années suivantes, les deux larrons vont se partager titres et records. La palme de meilleur performeur revenant à Co, qui à l'été 79 et en l'espace de 41 jours établit trois records du monde sur le mile, le 800 et le 1500 mètres. Mais c'est à un duel à distance que se livrent les deux rivaux qui prennent soin d'éviter l'affrontement direct. Pour cela, explique Co, il faudra attendre 1980 et les Jeux de Moscou. Pourquoi l'un d'entre nous aurait-il donné un bonus à l'autre avant une course importante? Nous ne voulions pas donner un avantage psychologique d'un quart de pouce, parce qu'au fond de nous-mêmes, nous savions que ce qui se passerait à Zurich, Birmingham ou Crystal Palace serait insignifiant par rapport à ce qui allait se passer l'été d'après dans le stade olympique de Moscou. Des jeux que les deux hommes sont à deux doigts de rater. La faute au boycott décrété par le président américain Jimmy Carter après l'invasion soviétique de l'Afghanistan. Margaret Thatcher, premier ministre britannique, choisit elle de laisser un choix relatif à sa délégation, coupant tout de même les aides de l'État aux athlètes souhaitant participer. Meko, Ovett et toute l'Angleterre n'ont cure des vœux de la Dame de Fer. Le petit jeu de l'évitement n'a que trop duré. La piste d'athlétisme du stade Loujniki devra les départager, dire de qui, de O, de Ko ou d'Ovett est le plus grand. Débarqués à Moscou, ils sont la proie des médias du monde entier et doivent arborer casquettes et lunettes pour tenter de forcer le barrage médiatique. La pression est maximale. Steve Ovett sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Affronter quelqu'un de son pays pour cette médaille d'or est encore plus difficile parce que si vous ne remportez pas la médaille, vous revenez à la maison en ayant échoué et en ayant été battu par votre propre compatriote. Il faut vivre avec cela à son retour. Donc oui, je suppose que c'était une tâche impressionnante qui nous attendait tous les deux, vraiment. Et en ce 26 juillet 1980, jour de finale du 800 mètres, Sébastien Co est le grandissime favori. Le 800, c'est sa course, une distance sur laquelle il est invaincu depuis plus de 2 ans et dont il détient le record du monde. La médaille d'or ne peut lui échapper. Pourtant, David Warren, le troisième qualifié anglais de cette finale, sent que son compatriote n'est pas dans son assiette. Seb avait l'air tendu. Il était vraiment très nerveux. Mais je suppose que la pression était principalement sur lui. Il était le coureur suprême du 800 mètres. Tout le monde s'attendait à ce qu'il fasse un malheur. Il est 19h25 lorsque le starter lâche les 8 fauves qui se lancent à l'assaut des deux tours de piste. Dans le peloton de tête, la lutte est acharnée et Steve Ovett doit jouer des épaules pour se faire une place. Cole y est parti plus prudemment, il occupe les dernières positions mais ne semble pas plus inquiet que cela. Au moment où la cloche du dernier tour retentit, la bagarre continue de plus belle et Ovett se rapproche de la tête. Quant à Cole, il s'obstine dans sa tactique et ferme la marche. Dans le dernier virage, alors qu'il fournit enfin son effort, il est loin, trop loin du duo Kirov-Ovett. L'Anglais, qui au prix d'un effort terrible, passe le Russe et remporte la course devant un Sébastien Coe lancé pleine balle, mais qui, tel le lièvre de La Fontaine, est parti trop tard. Quelques heures plus tard, il reconnaît ses erreurs. J'ai sans doute commis plus d'erreurs en une minute et demie que durant toute ma carrière. Ma plus grande erreur, et celle qui m'a enterré, c'est d'avoir perdu le contact dans le dernier virage. De ne pas avoir été là où il y avait de l'action. Et quand j'ai réussi à passer, il y avait deux gars qui étaient beaucoup trop loin dans la ligne droite. Et en plus, Steve était l'un d'entre eux. Sur le podium, visage fermé, Sébastien Coe peine à cacher sa déception et ne serre que du bout des doigts la main que lui tend son vainqueur, médaille d'or autour du cou, au moment où l'hymne olympique retentit. Le calvaire de Coe se prolonge quelques minutes plus tard lorsqu'il croise Peter, son père et coach, qui ne va pas être tendre avec le fiston. Je devais lui dire de ne pas mâcher mes mots. Et entre quatre yeux, je lui ai dit ce que je pensais. Je lui ai dit qu'il avait couru comme un véritable idiot. Oui, vraiment, comme un idiot. Le moral dans les pointes, Sébastien Coe accepte sans broncher le verdict paternel qui lui ordonne également d'aller se vider la tête et de revenir le lendemain à l'entraînement. Car oui, il reste une course, le 1500 mètres, chasse gardée d'Ovett qui rêve désormais de doubler. Cinq jours plus tard, les deux frères ennemis sont de retour à Loujniki. Ils ont tous les deux survolé leurs demi-finales respectives et sont prêts pour la revanche. En Angleterre, du côté de Sheffield, où réside la famille Coe, Angela, la maman, vit des heures éprouvantes. Il m'a semblé que la Grande-Bretagne s'était arrêtée de respirer pendant ces quelques minutes pour voir comment ils allaient s'en sortir. Le fait que Sébastien ait perdu le premier match a fait que le deuxième a été du pur théâtre. Mais qui aura le premier rôle de cette pièce qui captive l'Angleterre et le reste du monde ? Le stade Loujniki retient son souffle dans un silence assourdissant qui étonne presque Coe. La seule chose dont je me souviens, c'est que le stade était presque silencieux. Alors qu'il y avait 100 000 personnes, on pouvait pratiquement entendre une épingle tomber. Mais la foule va retrouver de la voix durant les trois tours et demi de ce 1500 mètres de légende. Cette fois-ci, Coe ne commet pas la même erreur. Durant les 3 minutes 38 que dure la course, jamais il ne quitte l'une des deux premières places. Derrière lui, prêt à bondir, Steve Ovett ne lâche pas son rival d'une semelle. Coe s'en méfie comme de la peste. J'avais tout bien fait. Je le tenais à distance. Je le maintenais derrière moi. Mais d'un autre côté, je savais que je ne pouvais pas aller plus vite. Et que si Steve revenait à ma hauteur à ce moment-là de la course, je ne pourrais pas faire grand-chose. Mais lorsque Coe, dans le dernier virage, produit son accélération et double l'Allemand Straub, Ovett ne peut que constater son impuissance et laisse son compatriote filer vers sa revanche. Grand favori pour le doublé, Steve ne franchit la ligne qu'en troisième position. Cette fois-ci, Sébastien peut jubiler, tandis que Papa Coe lui trouve encore quelque chose à redire. Steve Ovett avait remporté 45 victoires consécutives sur 1500 mètres. Tout le monde disait qu'il était le grand favori. Il devait gagner, mais il a perdu. Sébastien Coe, lui, était détenteur du record du monde du 800 mètres. Il courait plus vite que n'importe qui sur cette distance. Et lui aussi a perdu. Alors ok, ils ont obtenu l'or, mais ils ont tous les deux été battus dans leur meilleure épreuve. Si la logique sportive n'a pas été respectée à Moscou, elle va vite reprendre ses droits dans les mois qui suivent. Battu sur le 1500 mètres olympique, Ovett établit un nouveau record du monde sur la distance un mois après les Jeux. Quant à Coe, il doit patienter une petite année pour établir la meilleure perf de l'histoire sur 800 mètres, courant 4 secondes plus vite qu'Ovett au JO. 4 ans plus tard, à Los Angeles, le duel à nouveau espéré, cette fois-ci tourne court. Victime de problèmes respiratoires, Ovett ne peut défendre ses chances et laisse son rival de toujours entrer un peu plus dans la légende. Une soif insatiable de victoire qui ne laissera jamais Sébastien Coe en paix, ni même, et surtout, ses adversaires. Bertrand Delanoë, Jean-François Lamour et tous les représentants de la candidature parisienne pour 2012 l'apprendront à leurs dépens quelques années plus tard lorsqu'ils verront le train pour Londres leur passer sous le nez.
Merci Christophe Cessieux. Ça fait du bien quelque part de se remémorer ce moment en 2005. C'est vrai que c'était épouvantable. On en a fait beaucoup de débats. Et Sébastien Coe qui nous prive des Jeux Olympiques. Mais finalement, c'est pas très grave.
Bah oui, on a eu ceux de 2024, 2012. C'était pas un chiffre anniversaire.
On les a dans quelques jours. Ouais.
Mais bon, non. On l'a eu mauvaise quand même ce jour-là.
La valeur du choix en 2005 n'est plus du tout la valeur des choix après, puisqu'après, vu les années qui passent, il y a de moins en moins de pays et de villes qui se présentent, donc ça devient plus facile quand même. Là, il y avait la défaite à Londres. La défaite à Londres, c'est une défaite d'un lobbying français qui est passé à la trappe. Il faut se rendre compte de l'investissement qui avait été fait. C'était monsieur Arnaud Lagardère qui portait le projet de Paris 2012 à cette époque.
Mais Lagardère face à Coe, il y a pas photo quand même entre les deux.
Non, mais il y a
entre winner
et loser. Pas photo, mais à cette époque-là, il y avait encore plein de villes qui se présentaient, c'est-à-dire que les choix étaient des choix étudiés. Aujourd'hui, Paris prend 24, Los Angeles prend 28, on était tous contents quoi. C'était un peu Jacques
même
Martin.
Même quand l'adversité est moins bonne. On gagne.
Oui,
quand même.
Bien sûr, ce sera une grande fête. Mais non, c'était une sacrée claque.
Merci beaucoup, Christophe Cessieux, pour ce C'était mieux avant à retrouver en podcast. Merci, Sarah Pitkowski, Jérôme Pinault, Fred Weiss. Un grand plaisir d'avoir été avec vous ce matin. Tiens, je vous donne juste un résultat en tennis. Iga Swiatek vient de se qualifier. Voilà, elle a gagné 6-0, 6-0.
Oh,
en 40 minutes.
Elle a commencé à 11h.
11h, c'est terminé. 6-0, 6-0.
Ah, bah ouais, voilà.
Heureusement qu'elle n'a pas été.
On aurait dû la mettre en
live. C'est parfait.
On serait couché à 11h, on aurait été pas
là. On aurait vu le match.
Allez, les paris RMC, on boucle la boucle. Les paris RMC dans quelques instants autour de Metz-Saint-Etienne. A tout de suite.